Est-ce que le off est vraiment off? Je regardais avant-hier à la télévision cette enquête sur l'affaire Libye-Sarkozy, mais en l'occurrence, ça aurait pu être n'importe quelle émission d'investigation sur n'importe quel sujet, parce que ce qui m'a interpellé, c'est la présence de la caméra. Quand elle est là, et quand elle se dérobe, quand on fait semblant que c'est éteint, vous savez, alors qu'évidemment ça l'est pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas que le régime des images qui change radicalement, il y a aussi ce qu'on dit. Soudain, tout s'assouplit, la parole, le discours, la pensée sont comme libérés, et le témoin balance souvent une information qu'on n'aurait jamais reçue si la caméra était là. Et peut-être qu'un jour, vous vous êtes étonné qu'un journaliste parle publiquement de ce qu'il a recueilli en off. Ça veut dire, supposément, sans notes, sans micro, sans caméra, et avec l'interdiction surtout d'en parler. Il y a quelque chose de paradoxal et de malhonnête à révéler le off sur le papier. Mais le fait même de savoir qu'il existe, le off, qu'il est même assumé, bah ça change toute la perception de la vérité. Ce serait tout aussi malhonnête vis-à-vis du public de pas le révéler. D'autant qu'il est possible, vous le savez, de faire semblant de dire un secret tout en sachant qu'on est écouté et que la personne à qui on se confie va le répéter. Je regardais cette enquête à la télévision avant-hier et je me suis demandé si on n'était pas passé dans l'ère du off, ce moment de l'histoire où la parole vraie semble toujours voler.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il le même en off? Lui qui, avec François Lambrouille, est devenu l'un des maîtres de la caméra cachée. La semaine prochaine sort Monquête, son tout premier film. En tant que réalisateur, l'histoire d'un prisonnier en cavale qui cherche à reconquérir son fils. Une intrigue tissée de scènes lunaires où des inconnus, gardien de parking, passant, infirmière, chirurgien esthétique ou autre banquier, se confrontent à un personnage complètement barré. Bonjour François Damiens.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là.
Très mal dormi.
Ah, c'est vrai?
Ben oui, je pense que t'avais peur que je vienne pas.
C'est-à-dire qu'on s'inquiète toujours un peu.
Ouais, mais moi j'avais peur que tu t'endormes pas non plus, que tu viennes pas non plus, que je fasse l'émission tout seul.
Comme si c'était mon genre,
bah,
François Damiens.
C'est pas reproche, Augustin. Je te dis la vérité.
J'écoutais
ta chronique, t'as tout à fait raison. En fait, ce qui est intéressant en interview, enfin pendant une interview, c'est ce qui se passe avant et après. Et d'ailleurs, c'est un petit message pour tous les caméramans. Il faudrait qu'ils coupent leur tali. C'est une petite option. C'est la petite lumière rouge qui montre quand on filme.
Oui, et qui actualise le fait qu'on est filmé.
Et donc tout se bloque, tout se fiche quand ils allume le tali. En fait, il y a tout à fait, c'est ce qu'on fait dans la caméra cachée, il faut pas l'allumer ce truc.
Mais qu'est-ce que ça change la présence d'une caméra pour vous?
C'est un peu comme quand vous allez à un dîner, ce qui est intéressant c'est ce qui se passe à la porte d'entrée quand les gens arrivent
ou dans la cuisine.
Voilà, exactement, dans la cuisine. Dans les coulisses quoi. Mais devant, il se passe pas grand-chose devant la caméra quoi.
Alors vous dites c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous cherchez à capter précisément des gens que vous filmez en caméra cachée vous?
Moi je cherche à capter des réactions, des émotions, c'est pour ça que je veux filmer en tout gros plan quoi.
Parce qu'il y en a pas des réactions, des émotions quand c'est mis en scène, c'est ça que vous dites?
Je pense que quand on met les gens en scène, on essaie de tendre vers la réalité. Alors que quand on piège des gens ou quand on les fait jouer à leur insu, mais les réactions c'est les vraies, donc c'est la pureté quoi. On est directement dans l'excellence puisque on est dans la réalité quoi.
Donc c'est une vision totalement naturaliste ici du cinéma.
Ah bah oui, mais si on avait dû payer les acteurs qui sont dans le film dans un vrai film, ils sont impayables quoi. Il y a 25 personnes qui demanderaient des cachets impossibles quoi. Je vous mets au défi de jouer comme ils jouent dans le film quoi. Moi je suis juste un espèce de type qui vient les provoquer et qui essaie de raconter une histoire à leur insu. Mais eux, ils sont dans la véracité, quoi.
C'est drôle parce que quand vous en parlez, on a vraiment le sentiment que ce sont eux les héros du film,
plus que
votre personnage.
Ah bah oui, mais c'est clairement eux. D'ailleurs, ils ont été payés comme des acteurs, hein.
Quelle image de la Belgique est-ce que vous avez voulu donner, François Damiens?
Ben en fait, je savais pas, je voulais pas donner d'image. Et en fait, il en ressort une, c'est que ces gens sont d'une... Enfin, ces gens, je m'inclus aussi. d'une gentillesse, mais non, mais d'une
oui.
bonté, d'une
bienveillance,
humanité, d'une bienveillance. Il y a quand même une dame qui m'explique pendant une demi-heure qu'elle sortira pas avec moi parce qu'on a rien à faire ensemble. Elle passe une demi-heure de sa vie à me dire non, ça marchera pas. Je suis beaucoup trop classe pour toi, j'ai l'éducation, t'en as pas, tu viens de la ville. Enfin, tu viens de la campagne, je viens de la ville. Entre nous, il y a pas de livre, il y a une bibliothèque. Enfin, je trouve ça d'une... j'étais complètement.
Mais comment vous faites, justement, François Damiens, malgré votre bienveillance, pour vous assurer que les gens que vous filmez à leur insu ne se sentent pas piégés, manipulés, une fois qu'ils se sont rendus compte que vous les avez fait marcher, parce que vous les faites marcher?
Oui, complètement. Mais oui, en fait, une caméra cachée, c'est basé sur l'écoute, quoi. Je pense. C'est vraiment écouter la personne et puis essayer de comprendre comment elle fonctionne et puis s'introduire dedans sans vouloir faire de jeu de mots.
Ah bah j'espère.
Oui, quand même.
Parce qu'il est 9h13.
Exactement. Ouais. Et puis ça serait trop facile en plus.
Trop facile.
Mais non, c'est vraiment l'écoute. Et en fait, paradoxalement, dans une caméra cachée, ce qui est pas compliqué à cacher, c'est pas tellement les caméras, c'est les micros. Parce que quand vous piégez quelqu'un dans un parking, il peut aller où il veut dans le parking. Il a 50 mètres de long ou de large de latitude, quoi. Et donc, tout le truc, c'est de trouver comment est-ce qu'on va lui mettre un micro sur lui à son insu.
Rien n'est truqué.
Ah, alors là, quand je vous dis rien, mais c'est rien. Excuse-moi du mot, hein, mais j'ai vu un imbécile qui a dit, il y a des faits que c'est trop bien fait. Non, c'est pas trop bien fait, c'est... On s'est donné les moyens, on a mis un an et demi à tourner avec 45 personnes qui ont été payées pendant un an et demi pour tourner, parce que évidemment il y a rien qui est fait pour tourner une caméra cachée, aucun endroit. Oui. Donc on attend au gré des autorisations de tournage, on a tourné dans les prisons, dans les hôpitaux, tout ça. Mais ça se fait pas en deux jours une autorisation.
Est-ce qu'il y a eu des réactions violentes parfois, des gens qui se sont mis en colère?
Mais ici dans le film finalement très peu. Parce qu'en fait, dans les caméras cachées pour la télévision, c'était des gens qui venaient chez moi quand j'étais péager, tatoueur, guichet. Et ici, c'est...
D'y penser.
C'est ça, mais ici, c'est moi qui allais chez eux, en fait. Donc, j'étais demandeur, quoi. Donc, c'était plutôt... adorable, quoi. Et conciliant, parce que je suis quand même, dans le film, je suis en cavale. Oui. Mais à partir du moment où ils comprennent le mobile de ma cavale, à savoir, je suis sorti de prison pour retrouver mon fils qui avait demandé l'émancipation... les gens deviennent gentils et aidants, et c'est quand même débile d'aider un mec qui...
J'aurais eu du mal à garder mon calme, quand même.
Alors, quel est le motif de votre visite, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Alors, moi, ce que je voudrais... Comment je vais dire? Là, j'ai l'impression que mon extérieur, donc mon faciès, on va appeler ça comme ça...
Votre visage.
Voilà, oui. Mon visage n'est plus en phase avec le dandy qui est à l'intérieur. J'étais ce qu'on appelle un golden boy, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Les gens voulaient être copains avec moi. Il était de bon ton de s'afficher avec moi. J'étais partout. J'étais all together. Everyone around the world. Je sais pas si je me fais comprendre. Et à un moment, j'ai senti que le dandy se craquelait. Mm-hmm. J'ai pas envie de montrer le dandy qui décline. Ça m'intéresse pas. Mm-hmm. J'ai pas envie que les gens se disent, c'est plus le dandy que j'ai connu. Mm-hmm. C'est plus le dandy. Comprenez ce que je veux dire? Comme il y a Trump aux États-Unis, il y avait Versailles en Belgique. Et donc, je me suis dit, bon, de deux choses d'une, moi, je vais pouvoir retourner partout où j'ai été, mais qu'on me reconnaisse plus. Qu'on reconnaisse plus le dernier. Voilà ce que je voudrais. La parole est à vous. Merci.
François Damien, s'il faut nous expliquer, qu'est-ce qui se passe dans cette scène?
En fait, je vais voir un chirurgien esthétique. Il faut savoir que je suis complètement grimé, quoi.
Oui, votre personnage va voir un chirurgien esthétique.
Voilà, c'est ça, oui, pardon. moi aussi, hein. En l'occurrence, dans le film. Non, donc je suis complètement grimé et je vais voir un chirurgien esthétique pour lui demander qu'il me fasse une intervention chirurgicale de façon à ce qu'on me reconnaisse plus, quoi. Étant donné que je suis en cavale, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est tout le scénario, quoi. Ça tient sur une ligne. Et donc, j'essaie de jouer un personnage devant ce chirurgien pour qu'il se rende compte qu'il a quand même, un type un peu spécial devant lui. Pour tout doucement l'amener. D'ailleurs, il me pose des questions. Il me dit, votre famille est au courant? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que... Il essaie de voir qui se cache derrière ce type. Et puis, quand il commence à comprendre... parce qu'à un moment, il me demande, faites du sport? Je lui dis, c'est difficile de faire du sport dans une cellule de 5 mètres carrés. Il fait, ah ouais. Là, donc, il se rend compte qu'il a affaire à un type en cavale. Et puis, petit à petit, je commence à l'emmener vers ça. Et puis, à un moment, il me dit... Là, on devient un peu borderline. Hein.
Et comment vous avez réussi à placer vos caméras alors, là, précisément?
Là, précisément, en fait, il avait son cabinet, on avait pris une polyclinique et on avait activé des foreuses.
Avec puis, vos complices.
Voilà, c'est ça. Et puis donc, il y a son assistante qui est venue dire, José, il s'appelait d'ailleurs, docteur José, je sais plus comment, Boudou. Est-ce que ça te dérange de faire la consultation dans le bureau là-bas? Non, pas de problème. Et puis il est arrivé dans un bureau donc qu'il connaissait pas et donc il a pas fait attention. Mais de toute façon, à partir du moment où on voit les caméras, c'est que c'est raté.
Et dans le fourgon de police, parce qu'il y a une scène dans un fourgon de police, comment vous les avez placées, les caméras?
Là, c'est une scène de pas de fiction, mais d'habillage, quoi. Donc les caméras là sont apparentes. Mais cacher les caméras, c'est vraiment pas le plus compliqué. Hein. On fait beaucoup de repérages et puis il faut savoir que sur chaque caméra cachée, il y a trois caméramans dans la pièce qui doivent être discrets. Ils rentrent le matin avec leurs tartines, leurs friandises, des boissons, même des bouteilles d'eau vide parce qu'ils peuvent plus bouger, donc ils doivent se débrouiller tout seuls. Parce qu'évidemment, les piégés, quand ils arrivent, ils préviennent pas, quoi.
Oui.
C'est pas comme sur un film où on dit, tiens, t'as un PAT à 12 heures. Ils arrivent, ils rentrent dans la pièce.
Ça veut dire une grande souplesse pour vous en tant que réalisateur?
Oui, complètement, oui. Ben, il faut être sur le qui-vive. Il y a pas les camions devant l'entrée. Il y a pas un câble qui peut passer. Donc, c'est du maquillage en permanence, quoi.
Et en même temps, ce que vous dites est intéressant sur la scène du fourgon de police. Il faut que ça reste un objet de cinéma avec des champs, des contre-champs, des plans larges, d'autres serrés. Ça doit rester une construction, le film, au final.
Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était qu'à la fin du film, les gens étaient, idéalement émus, enfin touchés du moins, qu'ils aient rigolé avec une histoire, et puis qu'ils se rendent compte qu'en fait tous les gens qui les ont émus, ben ils l'ont fait à leur insu, en fait ils savaient pas quoi. Et donc ces gens sont rentrés dans la vie d'autres gens, toujours sauf au jeu de mots, mais tout à leur insu, quoi. Il y a une dame qui vient chercher des croquettes pour son chien, puis elle se rend compte que, en fait, je suis en train dans un bar tabac à prendre mon fils à fumer, on cherche une marque de cigarette qui lui conviendrait. Et la dame qui joue l'étonnement, mais il n'y a personne qui peut faire ça comme elle, quoi. Et puis après ça, cette dame se retrouve, mais sur les plateaux de télévision, j'ai fait un peu de promo avec elle dans les avant-premières, voilà, et puis elle a envahi, investi du moins le monde du cinéma. Elle se retrouve sur une affiche et alors qu'elle venait juste acheter des croquettes pour son chien.
ça me fait penser, vous savez, celle qui achète des croquettes pour son chien dans cette émission, est-ce que vous la connaissez? Celle qui est toujours curieuse aussi, non? C'est la culture, évidemment. Ah bah la culture, François Damiens, c'est son actualité exhibo, impudique et en toute transparence. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 24 mai?
C'est un type absolument vivant qui vient de mourir, donc il est beaucoup plus vivant que tous les vivants qui font semblant d'être, voilà.
Hommage tendre, depuis l'annonce hier de la disparition de Philip Roth, de nombreux écrivains et personnalités saluent son œuvre et sa mémoire. Aux États-Unis, il était le héros de Jonathan Safran Foer et un véritable moraliste dénonçant l'hypocrisie et le mensonge dans la vie publique comme dans la sphère privée pour Joyce Carol Oates. En France, la ministre de la Culture Françoise Nyssen n'hésite pas à parler de légende, tandis que Philippe Solaire s'ajoute qu'il était l'un des types les plus drôles qui ait jamais existé. R.I.P.
Si vous voulez danser, je vous invite, tout le monde.
Sully Sun Jazzy, la 45e édition du festival de Sully-sur-Loire devient départementale et se déploie dans tout le Loiret. Traditionnellement consacré à la musique classique, l'événement se teinte cette année d'une touche résolument jazzy, en invitant notamment la diva Lisa Simone et la pianiste australienne Sarah McKenzie. On pourra aussi y écouter un récital du grand Michel Legrand. En avant.
La question est la suivante et elle concerne tous les auteurs. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que les droits promis seront bien des droits réels ?
Beaucoup de questions et d'inquiétudes, mais peu de réponses. C'est ce qui ressort des premiers états généraux du livre qui se sont tenus mardi à Paris. Très inquiets à cause de leur régime social et face à la réforme fiscale de 2019, les artistes auteurs ont déploré le mépris dont ils ont le sentiment de faire l'objet dès qu'ils abordent ces questions face au pouvoir public. Petite victoire quand même, une réunion est prévue avec les services du ministère de la Culture le 21 juin prochain. Le combat continue. Droit au tube, c'est officiel, le rappeur et acteur américain Will Smith interprétera Livin' Up, l'hymne de la Coupe du Monde de football qui se tiendra cet été en Russie. Pour l'occasion, l'ancien prince de Bel-Air a collaboré avec la star du reggaeton Nicky Jam, la chanteuse albanaise Hera Istrefi et l'américain DJ Diplo. Livraison de la production demain, si tout va bien. Et François Damiens, invité de Boomerang ce matin pour son premier film, on le disait en tant que réalisateur, Monquête, en salle mercredi, un film tourné entièrement en caméra cachée donc, et dans lequel vous êtes absolument méconnaissable. Alors il faut peut-être nous le décrire, ce personnage, à quoi il ressemble, ce Danny que vous incarnez, comment il est pour vous?
Ben, Danny, pour moi, c'est... En fait, quand on a écrit le film avec Benoît Mariage, on n'est pas parti de l'histoire, on est parti du personnage. Moi, j'ai imaginé d'abord un type qui avait jamais été pris dans les bras par sa mère, quoi. Et je pense qu'on se remet jamais quand on n'a pas été pris dans les bras de sa mère. Donc ce type, il a envie de donner à son fils ce qu'il a pas reçu. Donc c'est compliqué, quoi. Transmettre une éducation quand on n'en a pas reçu, c'est directement...
Ça commence par une émotion, en fait.
Voilà, oui, c'est ça. Et donc moi, je l'ai imaginé avec des parents qui avaient une soixantaine d'années, lui qui avait 13-14 ans, et puis il jouait dans la rue en face de chez lui. Ses parents tenaient un magasin de... C'était commerçant, Ifi, là, tu vois, haute fidélité, là,
ouais.
Les ancêtres de la Fnac. Et donc c'est des magasins qui sont condamnés à faire faillite. Les parents, ben, ils étaient sur leur tour. Et lui, il rencontre une fille de 25-26 ans quand il a 13 ans. Et puis il essaie de se faire remarquer, il essaie de l'inviter au resto, mais il n'a pas d'argent. Et donc il commence à magouiller. Et puis de magouille en magouille, ben voilà, c'est son entrée dans la vie. Et puis il faisait des petites magouilles, puis de plus grosses, et puis il termine en tôle.
Mais il a fallu l'imaginer physiquement aussi,
ouais.
François Damiens. Maquillage, costume, prothèse,
ouais.
Ça aussi, ça aide à construire le personnage.
Ah ouais, non, j'avais le... Bah oui.
Au-delà du fait qu'il ne faut pas qu'on vous reconnaisse.
Bien sûr, mais c'est vrai que ouais, j'avais 4 heures de maquillage tous les jours. J'avais des couleurs d'oreilles, des faux mentons, des fausses lèvres, un faux nez évidemment, des fausses dents, des lentilles, des fossiles.
Et une fois que le maquillage est terminé, vous êtes plutôt plus le personnage ?
tout de suite.
Bah déjà, je suis fatigué quand j'ai fini le maquillage. Parce que c'est 4 heures avec des solvants dans... Oui, oui, non, mais après ça, tu fais une petite pause pendant 3 quarts d'heure. Et puis après ça, tu rentres dans le personnage. Et puis ce qui est génial quand tu fais de la caméra cachée, c'est que tu peux jouer, quoi.
Ouais.
Tu joues pendant 12 heures d'affilée, quoi. Et moi, c'est ce que je préfère faire au monde. C'est jouer. En fait, c'est ce qui m'ennuie sur un tournage, évidemment, mais comme tout le monde, ça t'ennuie aussi, j'imagine, quand t'attends l'émission, quoi, toi. Et là, tu joues.
Vous voulez dire que c'est en jouant aussi qu'on construit le personnage? Ah, en prenant du temps,
Ouais, mais, et en plus, mais ici, dans ce cas-ci, il fallait que je reste collé au personnage pendant tout le film, évidemment, et puis que je fasse progresser le récit. Donc, il faut se demander de la concentration, et puis, il fallait faire un minimum de mise en scène avec mes complices, mes acolytes, à savoir Parrain et le gamin. Et donc, tu penses déjà au montage. Il faut savoir qu'on a tourné un an et demi et qu'on avait 650 heures d'image à la fin. Donc, on a monté en parallèle parce que je pouvais pas imaginer continuer le film sans savoir à chaque caméra cachée, on piégeait une douzaine de personnes.
Ça veut dire que rien n'est écrit, François Damiens, en fait.
On avait 25 pages, quoi. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le scénario à Hugo et à Patrick, mes producteurs, ils m'ont dit, mais non, mais c'est le scénario qu'on t'a demandé. J'ai dit, ben, il y a un scénario que tu veux de plus. Ben, c'est difficile d'écrire des dialogues quand tu sais pas.
C'est difficile de les convaincre, du coup, les producteurs.
Non, ils étaient déjà convaincus. Après ça, je me suis dit, ils vont pas avoir facile à convaincre les chaînes de télévision. Et en fait, ça s'est passé plus facilement que prévu, quoi.
Parce qu'on sait que ça repose aussi chez vous beaucoup sur l'improvisation, François Damiens. C'est ça pour vous? C'est l'improvisation, le jeu?
Ben oui, mais je veux dire, de toute façon, l'improvisation, on improvise, tout le monde improvise toute la journée, hein. Je veux dire, on sait jamais sur qui on va tomber pendant la journée.
Au théâtre, on n'improvise pas.
Non. Non, mais oui, c'est de l'improvisation. C'est vrai que il y a juste il y a un petit temps d'heure, quoi. Tu sais que tu pars du point A au point B, mais après ça, c'est un peu comme avec les beaux-parents, quoi. Ils arrivent et on piège les beaux-parents de ma compagne dans le film. Et, mais tu sais qu'ils arrivent avec leur petit ballotin de praline et leur bouteille de vin. Et tu sais qu'ils vont apprendre petit à petit que le mec a fait de la tôle, que leur fille est enceinte, qu'il la demande en mariage, donc c'est une
espèce. Et après, tout peut se passer.
Ouais, exactement, quoi. Tu joues un peu avec les. Je me rappelle les beaux-parents, parce que j'ai croisé ma complice, donc la fille à une avant-première il y a 2 jours. Elle m'a dit, mes parents, entre Bruxelles et Liège, après la caméra cachée, ils ont dû s'arrêter 2 fois, quoi, sur la route. Parce qu'ils en revenaient pas de ce qui s'était passé, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire, mon quête, François Damiens?
Mon quête, ça veut dire mon gamin. C'est mon gamin avec beaucoup d'affection.
Pourquoi un film sur la fierté d'être père?
Parce
que j'ai l'impression que tout le monde réfléchit à ça.
Ouais, mais moi ce qui me touche, c'est les gens qui essaient de bien faire et qui se plantent. On a déjà tous reçu un pull d'une tante et on n'aime pas ce pull. Mais on le met parce qu'on sait qu'elle l'a acheté avec amour et qu'elle a mis du temps à le trouver. Et donc même après ça, les gens se foutent de ta gueule. Ils disent, ah, il est horrible ton pull. Tu dis, mais je m'en fous. C'est mon pull, c'est ma tante qui me l'a offert.
Pensiez à qui? Vous pensiez à vous? À votre histoire?
Ouais, c'est ça. C'est transmettre ce que t'as pas reçu, en fait. C'est l'idée de la projection, un peu, tu vois, les gens qui se projettent sur leurs enfants, ils aimeraient bien de faire de leurs enfants un champion de Formule 1, de tennis, ou je sais pas quoi, un intellectuel, parce qu'ils le sont moins. Et je trouve ça, et c'est poussif, mais c'est de l'amour, et c'est quelque part une projection, c'est de réussir là où j'ai échoué, quoi.
Votre père, il projetait quoi sur vous?
Oh, je sais pas ce qu'il projetait sur moi, il m'a laissé faire, quoi. Ouais.
Et vous, sur vos enfants?
Moi j'essaie de leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. J'essaie d'être un tuteur, entre guillemets, mais de les laisser aller partout où ils veulent, quoi. Mais du moment il faut que j'essaie de leur inculquer quand même quelque chose, c'est le respect, quoi.
C'est ça que vous leur dites à travers ce film aussi?
Je pense qu'il y a des messages subliminaux, quoi. Tu vois, aussi comme tu vois, ces gens qui essaient de recomposer des familles comme ça en une semaine, quoi. Tu rencontres une femme et puis en un coup, les parents de la femme, ça devient les grands-parents, les oncles, les tantes, les demi-frères, les demi-sœurs. Tu fais, mais attends, 2 secondes, vas-y, cool, quoi. Et puis, ces parents qui ont des rapports amicaux avec leurs enfants, plutôt d'avoir des rapports parentaux, quoi.
Ah, la mère meilleure copine, c'est un problème.
Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, le but, c'est pas de dénoncer, mais c'est aussi avec l'argent, même, tu vois. À un moment, je loue un footballeur pour l'anniversaire de mon fils.
La scène est dingue.
Voilà. Mais c'est des gens qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter, quoi. Une espèce de nouveau riche, entre guillemets, ou ancien pauvre, comme disait Coluche. C'est la vulgarité absolue, quoi. Et moi, je pense que l'élégance, c'est tout ce qui se voit pas, en fait. Paradoxalement, quoi.
L'élégance des pères. Des pères, on peut en avoir plusieurs, François. Des pères de cœur, des pères spirituels, des pères comme Jacques Brel, tiens, qui chantait un autre genre de père dans Grand Jacques. Oh. En 54, vous êtes sur France Inter avec François Damiens. Vous écoutez Boomerang.
C'est la famille.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. tais-toi donc. Grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie. Vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier. Laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est trop facile de faire semblant. Regardez-le, là, il est grand, ça, y a pas de doute. Sorte de gentil géant de conte de fées ou d'ogre de légende. Sourire tantôt attendrissant, tantôt un peu effrayant aussi. Chevelure résolument clairsemée. L'œil franc, hein, mais qui ne peut pas s'empêcher de vous regarder un peu de travers ou par en dessous. C'est un farceur, en fait. Hein. Si ça se trouve, avec sa chemise bleue, vous savez, ce matin, ouverte, comme ça, ouverte au monde, le comédien et réalisateur François Damiens, invité de Boomerang ce matin pour Monquête. Ce film tourné en caméra cachée, qui parle, mine de rien, on le disait, de ce que c'est que d'être un père et un héros. Jacques Brel, quel héros est-ce que c'était pour vous? Est-ce que c'est?
Ah, pour moi, il incarne la liberté, quoi. Et puis, je trouve que, comme il disait, il a su quitter la table quand l'amour était desservi, quoi. Et je trouve ça tellement la classe à 43 ans de... Je le vois encore venir à l'Olympia avec son peignoir et dire, non, c'est bon, j'arrête. Parce que là, je vais commencer à faire du Jacques Brel. Et je trouve qu'on voit trop de gens qui font de leur personne une marque de fabrique, quoi.
Ça veut dire que vous arrêterez tout si jamais un jour vous sentez vous êtes dans une forme de caricature?
Mais je vais pas aller jusqu'au bout, je vais arrêter. Je vais arrêter plus tôt que prévu, quoi.
Mais quand?
Je sais pas, là, je vais encore faire quelques films et puis je vais m'acheter un bateau. C'est ça un peu le but, quoi. Et puis après ça, je vais partir. Mais pour revenir encore, c'est clair que j'aurais envie de prendre le large au bout d'un moment, quoi.
Comme Jacques Brel.
Ben oui, mais j'aime tellement ma vie que j'ai peur de m'en lasser, quoi. Donc je vais essayer de l'arrêter régulièrement pour avoir toujours du plaisir à y revenir, quoi.
Un dîner idéal avec Jacques Brel, ça ressemblerait à quoi? Il vous est arrivé de l'imaginer, François Damiens?
Ouais, bien sûr. Avec une bière glacée déjà. pourquoi pas. Ouais, Johnny qui serait à côté, tu vois.
Quelle question.
Qui en lâcherait deux, trois belles comme ça, et qui serait notre petit plaisir. Moi, je suis triste qu'il soit mort, Johnny. Et quelle question
vous lui poseriez? À Jacques Brel, mais à Johnny aussi.
Mais moi, je lui poserais pas trop de questions. Je l'écouterais, en fait. Parce que j'aime pas trop les questions. J'aime bien quand ça parle tout court. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est que en fait je me sens très proche de lui, s'il le savait, je lui ai jamais dit. Mais non, c'est que on a le côté où on est tous les mêmes, en fait. Et moi je trouve qu'il me rassure très fort le grand Jacques, parce que c'est que quand je suis pas en forme, je l'écoute et je me rends compte que que c'est rassurant de se dire que qu'on est tous en souffrance, qu'il faut arriver à vivre avec sa tristesse quelque part, d'une part, et d'autre part quand ça va pas, ça dure pas trop longtemps, c'est quand même l'avantage. Et puis se dire que on est tous les mêmes et que on traverse tous notre vie et en se posant des questions. Mais comme il disait d'ailleurs, je fais une longue phrase.
C'est bien.
Mais non, mais c'est vrai qu'on rit pour les mêmes trucs, on a peur des mêmes choses, on pleure des mêmes choses. Et ça, je trouve, c'est quand même très rassurant, quoi.
Votre décision de devenir artiste, elle a quelque chose à voir avec Jacques Brel?
J'ai connu Jacques Brel quand j'avais 14 ans. J'avais fait un voyage aux États-Unis avec mes parents. Et on avait le voyage classique aux États-Unis, tu vois, où tu traverses la Californie, l'Arizona, le Colorado. Et je mettais Jacques Brel tout le temps à fond dans le mobilhome, quoi. Et ça saoulait toute la famille, quoi. Et je continuais. Et j'écoutais Grand Jacques.
Mais je me demande, François Damiens, parce que je sais que vous n'êtes pas tout de suite tourné vers la caméra, le cinéma, ou même le canular. Vous avez fait des études de commerce au départ très sérieuses. Pourquoi?
Ben, parce qu'en fait, j'avais présenté l'examen au conservatoire de Bruxelles. Et ils m'ont recalé, quoi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas essayer de faire le mec qui s'acharne. J'avais pas envie de vivre en kickers, à fumer des clopes roulées pendant 10 ans et aller boire des bières, tu vois, dans les endroits bobos. Je me suis dit, je vais faire des études de commerce. Et puis au moins après ça, parce que quand tu joues la comédie, en fait, tu fais que reproduire des trucs que t'as déjà vécu. Donc je me suis dit, je suis encore un peu jeune pour déjà reproduire ce que j'ai vécu. J'ai pas vécu grand-chose. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'ai fait un stage en Australie pendant 6 mois. Un stage entre guillemets, parce que j'ai pas fait le stage, j'ai juste voyagé. C'était la période la plus libre de ma vie, en fait. Je voyageais avec un petit sac à dos d'école, c'était mon sac à dos d'école. Et puis je rencontrais des gens, puis je partais à droite, un peu comme un chien qui rentre chez les gens, il reçoit un os, puis il reçoit des croquettes d'un côté. Enfin, la liberté absolue. Et puis j'ai fini ses études, et puis j'ai fini le 30 juin, et le 1er juillet, j'ai commencé à faire des caméras cachées. J'ai commencé à faire des caméras cachées en pissant, en fait.
Comment ça?
Ben oui, parce que j'étais à un dîner, et je sors pisser dans la rue avec un copain, et puis il me dit, je vais peut-être me faire engager dans une boîte de production qui fait des caméras cachées. Et on était en train de pisser, je dis, ouais, vas-y, tu me fais rentrer, mais même, je viens gratos, que tu dois même pas me payer, j'ai pas besoin de contrat, j'ai rien. Et puis il me rappelle 2 jours après, il me dit, ouais, j'étais engagé, et puis je dis, ah, mais je peux venir, et puis j'ai été, et voilà, et puis ça a commencé, ouais, 2 jours après avoir fini mes études, quoi.
Donc, vous voyez à quoi ça tient?
Toujours, pardon?
Vous voyez à quoi ça tient, en fin de compte?
Bah, ouais, tu vois.
À pisser.
Exactement.
Dans quel état vous êtes quand vous êtes sur un bateau, François Damiens? Vous parliez de liberté.
Ah,
tout
ouais,
à
je suis heureux sur un bateau. C'est paradoxalement, ce qui est bizarre, c'est assez restreint comme endroit, et c'est l'endroit où je me sens le plus libre. En fait, j'aime tout faire sur un bateau. J'aime faire la vaisselle. Moi qui aime pas bricoler, j'aime bien bricoler sur un bateau. Je suis capable de démonter un pilote automatique alors que je déteste faire ça sur la terre. Non, je me sens heureux, et puis j'aime bien prendre le temps de vivre. En fait, j'aime bien perdre mon temps. Et sur un bateau, bah, tu peux perdre ton temps, tu peux manger un pamplemousse pendant 1h30, quoi. Et t'as pas l'impression de perdre ton temps, quoi. Tu retires la peau, mais chaque parcelle de peau, chaque petite nervure, tu fais ça. Et donc, tu regardes le ciel et puis t'essaies de profiter, quoi.
On voulait en savoir plus sur vous, François. Alors, on a parlé avec quelqu'un qui vous connaît bien, qui connaît bien votre véhicule aussi, qui est aussi un de vos comédiens, en l'occurrence, ouais. Puisque vous l'avez fait jouer. C'est votre garagiste qui s'appelle Monsieur Jean-Luc Theis et dont vous avez souhaité entendre la voix ce matin.
Voilà.
Allô? Allô? Allô, Jean-Luc?
Allô? Oui. Ben, monsieur François Damiens, c'est une relation d'amitié qui dure depuis pas mal d'années. François avait 7 ans que je l'ai connu. Quand il venait à la maison, je le trouvais assez timide. Et malgré ça, quand on le voit là, on fait ses caméras cachées, on ne sait pas le dire. Il entretenait très mal sa voiture. Lui, du moment que ça roule. Et quand il tombe en panne, ben, on revenait. On l'emmenait en dépanneuse. J'ai tourné le phare avec François Damiens, avec mon camping-car, avec Virginie et Fira, ouais. On l'a trouvé en pleine campagne en France, du côté de Berck. Moi, je passais pour son père et je ne comprenais pas qu'on est parti et que le véhicule est tombé que mon camping-car est tombé en panne. Moi, j'étais souvent couché un peu en dessous, soi-disant occupé à le réparer qu'il est en panne. Et on a trouvé un emplacement dans les champs. Il y avait un énorme tas de compost, là, ce compost fumier, je ne sais pas ce que c'était. On a fait le coup de la panne là à côté. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Je fais un barbecue. Ben moi, je voudrais bien, une fois qu'on se réunisse une fois tous, qu'on fasse un barbecue. Parce que bon, moi, j'adore François et tout. On a bien rigolé ensemble et qu'on fasse une fois un barbecue. Il promet toujours. Ça fait des années qu'il me promet, on va venir. Et ça fait toujours, j'attends toujours qu'il vienne. Il me tient au courant. Il est toujours occupé. Il est toujours parti à gauche et à droite. Maintenant, j'attends ses nouvelles.
Pourquoi vous avez souhaité entendre la voix de Jean-Luc Theis?
Parce que je pense que c'est probablement la personne qui me fait le plus rire au monde, quoi. En fait, j'essaie de l'imiter, quoi. J'aime bien parce qu'il fait des... Il est précis, puis il est diffus, il est... Enfin, il y a tout,
voilà, il y a ce problème de barbecue, quand même, oui, François Damiens.
Il a quand même dit 3 fois barbecue en une phrase.
Bah, c'est-à-dire que vous avez... Ouais. Quand est-ce que vous allez le faire, ce barbecue?
Mais ceci dit, on en a déjà fait un avec Benoît Poulvourde.
Il y a longtemps, manifestement.
Oui, il y a une dizaine d'années. Je rêvais de les mettre ensemble, quoi. Et puis un jour ça s'est fait. Non, c'est de la poésie, Jean-Luc, quoi. Je veux dire.
C'est beau ce qu'il dit. Ouais. Sur votre timidité.
Mais évidemment. Et puis c'est quelqu'un qui joue à la personne très bourrue. Et en fait, il a une sensibilité extrême, quoi. Et dans toutes ses phrases, il y a "je t'aime" derrière en toile de fond, quoi.
Si ça se trouve, ils vous ressemblent.
Bah oui. C'est moi qui lui ressemble, à mon avis.
Merci François Damiens d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Monquette, avec Matteo Salamone, Tatiana Rojo, Christian Braille, sort mercredi. C'est aussi décalé que Désopilant. C'est très émouvant aussi. Je rappelle aussi que vous serez prochainement à l'affiche du film de Romain Gavras, Le Monde est à toi, qu'on aime tant. Ici, aux côtés de Karim Leclou, Vincent Cassel, Philippe Catherine ou Isabelle Adjani. Merci. Tout de suite, les médias. Voilà, Sonia Delivert. Juste après ça. Tied Up Right Now sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers, les médias.
Right now, right darling. Now. See you tomorrow.
See you tomorrow.
Bye bye.
Bye bye.